Le grand témoin.
Heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous parler de celui qui sera notre grand témoin. Lui, c'est Balamagé Nkolo. Il est avocat, ancien ministre du Travail et du Portefeuille, ancien sénateur. Actuellement, il est député national. Monsieur Balamagé, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Merci, bonjour.
Alors avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. Nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Capi. J'ai fait une brève présentation de votre personne dans mon introduction. Vous avez occupé des postes ministériels. Vous avez été sénateur, membre ou cofondateur du RCD. On va en parler tout au long de notre émission. Donc votre parcours politique, professionnel, c'est tout au long de cette émission. Mais avant cela, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Je sais que vous êtes né incertain, 18 avril 1964 à Goma.
Oui, c'est exact.
Et c'est là où vous avez grandi?
Oui, j'ai grandi là-bas. Après l'école maternelle, j'ai dû faire 4 ans dans mon village. Mon père avait décidé que j'aille étudier au village. Il avait peut-être pressenti que c'était nécessaire que je fasse ce passage au village, que j'apprenne la culture.
Et donc vous avez quitté la ville pour aller étudier au village?
Au village. Je suis rentré en ville en sixième année primaire. J'ai décroché mon certificat d'études primaires et je suis allé au collège Mwanga.
Et c'était le même enseignement au village et en ville?
Le problème ne s'était pas posé. C'était le même niveau, il n'y avait pas de problème.
Donc vous avez décroché votre certificat?
Je décroche mon certificat. Je vais au collège Mwanga, au CO comme on disait à l'époque. Et puis, pour indiscipline, tout de suite, malgré mes bons points, je suis renvoyé du collège. Je vais à l'Athénée de Goma où je retrouve quelques amis. La religieuse qui nous enseignait la religion au collège est venue me retrouver à l'Athénée de Goma. Bon, elle a compris tout de suite mon chagrin d'avoir quitté le collège. Comme j'étais assidu dans son cours, elle me proposera d'aller rejoindre un autre collège, le collège Jean-Charles Luanga de Bobandana, à 50 km de Goma. Mmh. C'est là que j'ai décroché mon diplôme et je suis allé à l'université.
Alors, vous avez fait quelles études humanitaires?
Pédagogiques. D'abord, quand j'étais au collège, j'ai fait les littéraires. Et puis, quand je suis allé au collège Jean-Charles Luanga à Bobandana, à 50 km, je fais la pédagogie.
Pourquoi vous avez changé de section? Il n'y avait pas de littéraire dans ce collège-là?
Il n'y avait pas de littéraire. Il y avait la biochimie et la section pédagogique.
Alors, vous dites que vous avez été renvoyé du collège parce que vous étiez indiscipliné, turbulent.
Oui, je ne suis pas indiscipliné. J'étais chef de promotion. Et nous avions...
Chef de classe.
Nous avions un directeur d'études qui... on avait surnommé comme ça, parce qu'il était dur avec nous, Kawe Kanem, chien méchant en latin. Alors, il a cherché à savoir qui était l'initiateur de ce
c'était
nom.
Vous?
Bon, c'était moi, effectivement. C'était moi, effectivement. Quand il a su, j'ai avoué après et puis on m'a renvoyé.
Vous étiez quel genre d'enfant?
Bon, j'étais un enfant ouvert, quand même. J'étais ouvert, j'étais extraverti. Il faut le dire, jusque maintenant d'ailleurs. Hein. J'étais extraverti, j'avais des amis, je papotais. Mais je n'oubliais pas qu'il fallait étudier. Parce qu'effectivement, sans fausse modestie, j'ai fait un bon parcours.
Vous avez grandi dans quelles conditions, M. Balamagé?
Mon père avait des conditions, c'était parmi les évolués de l'époque. J'ai grandi, à part mon passage au village, j'ai grandi comme un enfant... qui n'avait pas besoin de beaucoup de choses, mais qui avait tout presque à la maison. Mon passage au village, évidemment, il faut dire que j'ai goûté à la vie de ces jeunes Congolais qui vivent encore au village, qui apprennent à aller puiser de l'eau, n'est-ce pas, qui vont à la source. J'accompagnais mon oncle pète les vaches durant les moments de vacances. J'accompagnais ma tante...
C'est pas dur pour les enfants de faire ce genre de travaux?
Non, mais tu sais, à cet âge-là, on le fait avec plaisir. Hein, on le fait avec plaisir. J'ai appris à pêcher. Je pêchais pour toute la famille, déjà, de tout petit. J'apprenais à naviguer dans la pirogue, à pégayer, à ramer, à chanter. C'était avec plaisir. À cet âge-là, on n'est pas conscient. C'est pas vraiment une difficulté, mais bon, c'était bon pour moi. Une belle expérience.
Balamagé Kolo, oui. C'est quoi votre prénom?
Boniface.
Ça a une signification particulière, votre nom, Balamagé Nkolo?
Balamagé veut dire dans notre langue qu'il vive. Nkolo, c'est un diminutif d'une expression qui veut dire que celui qui n'a pas des racines, l'arbre qui n'a pas des racines ne survit pas. Voilà, donc c'est ça mon nom, et Boniface vient du latin, bonifacere, bien fait, bien faire.
Vous êtes inscrit à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi, où vous obtenez un diplôme de licence en droit en 1989.
Oui, c'est exact. Ouais. J'obtiens mon diplôme, tout de suite je m'engage à faire le métier d'avocat à Goma.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier?
Quand je grandissais, nous j'habitais un quartier administratif où il y avait beaucoup de magistrats qui étaient nos voisins. Et je voyais ces messieurs comment ils vivaient, comment ils disaient le droit. J'étais fasciné par le droit. Et plus tard, je compris qu'il fallait faire le droit aussi. Et après, j'ai choisi d'être avocat. Après l'obtention de mon certificat d'enseignement au ministère de la Justice, ici, à Kinshasa, je suis rentré à Goma faire embrasser la carrière d'avocat où j'exerçais jusque maintenant. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe présentement, mais après plusieurs parcours. Dans mes débuts, évidemment, c'était dur. Évidemment, il fallait, après les études théoriques de l'université, il fallait apprendre ces métiers. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer le bâtonnier Kachongwe qui m'a encadré. C'est mon maître dans cette profession, qui m'a envoyé faire, n'est-ce pas, des stages de professionnalisation aux États-Unis, à Washington, à Genève, en Italie, en Belgique. Et puis bon, je me dis que ce passage-là est un plaisir pour moi, cette carrière.
Vous aimez ce métier?
Je l'aime bien. Je ne sais pas, je le dirai combien de fois, mais je l'aime.
Même lorsqu'il faut défendre des voleurs, des malfaiteurs.
Non, il ne faut pas prendre ça de cette façon-là. Le métier d'avocat est passionnant. Le monde est ainsi fait, c'est un métier qui a commencé depuis l'ancien temps. Même dans la Bible, vous savez retrouver qu'il y avait des gens qui faisaient déjà la profession d'avocat. En fait, quelqu'un peut avoir tué involontairement. Lorsque vous êtes sur la route, madame, vous tamponnez quelqu'un, mais c'est une infraction non intentionnelle. Peut-être que c'était la faute exclusive de la victime. Faut-il qu'on vous condamne à mort aussi, simplement parce que vous l'avez fait? Non, pas du tout.
Mais lorsqu'une personne va voler.
Mais il y a aussi des gens qui
le fait intentionnellement.
Il y a des gens aussi qui sont victimes des infractions des autres. Ceux-là ont besoin d'être défendus.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas le mensonge.
C'est quoi votre plat préféré?
Le poisson. Vous savez, je suis originaire de l'île d'Ijoui, et donc dans le lac Kivu, la nourriture principale.
Et parce que c'est très beau, hein, Ijoui.
Je voudrais vous dire que l'île d'Ijoui, peut-être les Congolais ne le savent pas, est d'abord la plus grande île d'Afrique des eaux internes, mais c'est le plus beau territoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que je suis originaire de là. Au Kivu, le nord de l'Ijoui, le Kivu, le Maniema aujourd'hui, c'est le territoire le plus pacifique, qui n'a pas connu de guerre. Simplement parce que, bon, il est difficile de naviguer, d'atteindre l'île d'Ijoui. Mais c'est beau.
Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Qu'est-ce qui peut attirer les gens, les touristes?
La beauté, les plages, n'est-ce pas? L'eau du lac Kivu, le poisson, l'attitude des gens, comment ils vivent. Ils sont très pacifiques. Il y a beaucoup à manger aussi, les ananas, nous avons du poisson. Nous avons du haricot aussi. Et donc, voilà, on est pacifique. Le peuple d'Ijoui est très pacifique. Le peuple de Calais est pacifique. C'est le seul territoire où vous n'avez pas de groupes armés.
Vous êtes marqué père de 5 enfants.
Oui, père de 5 enfants. J'ai une seule fille et 4 garçons. Il y a aussi mon épouse, Florence Chadi Mwayuma, qui est une mère agréable.
Alors, on la salue en passant, oui. Madame Balamagé. Oui. Bonjour et bon dimanche. Vous faites le sport, vous aimez le sport?
Oui, j'aime le sport. J'aime le sport. Dès mon bas âge, j'ai pratiqué le sport. Mais mon sport favori, c'est le tennis que je pratique depuis que je suis très jeune.
Mais maintenant, vous pratiquez ce sport?
Oui, je pratique le sport. Mais je fais, comme tous les jeunes musclés à l'époque, le basket, le football, le volley. Parce qu'au collège, on ne faisait que ça. Et bon, après, j'ai été dirigeant sportif. Je sais que j'ai été deuxième vice-président du club Virunga de Goma, du cercle Virunga. J'étais en charge du basket. Et il y a quelques années, j'étais président du FC Kivu à Bukavu. Mais maintenant, là, je me suis retiré parce que je suis accaparé par...
La politique.
Par la politique.
Alors, avant de parler de votre parcours politique, on va prendre une personne qui nous a parlé de vous, avec qui vous avez vécu, même dans, je crois, dans la même maison. Hein, et il nous a parlé un peu de votre caractère, votre comportement. Et donc, on va le suivre et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'entretien.
Je m'appelle Maître Bouino Jean-Richard, je suis avocat auprès de la cour d'appel de Kisangani et je réside à Goma.
Maître Jean-Richard Bouino, grand témoin, le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission l'honorable Balamagué que vous connaissez. Dites-nous comment vous vous êtes connu ou comment vous l'avez connu.
Ok, madame la journaliste, je l'ai connu en 1989 quand il venait de prêter serment comme avocat au barreau de Goma après ses études universitaires à la Kasapa à l'université de Lubumbashi.
C'était dans quelles circonstances? À quelle occasion?
Ok, madame, il était ami à mon grand frère qui venait à la même année de prêter serment aussi.
Vous l'avez fréquenté?
Oui, oui, je l'ai fréquenté. On a même vécu pratiquement pendant 6 mois ensemble quand j'étais en vacances.
Il est quel genre de personne, l'honorable Balamagué?
Non, c'est un monsieur très très entreprenant, très très ambitieux, et qui ne recule jamais. Quand il vise quelque chose, il l'obtient sûrement.
Coûte que coûte.
Oui, oui, à coup sûr, quand il vise quelque chose, il doit l'obtenir.
Et qu'est-ce que vous appréciez chez lui?
Il est très ouvert, il est sympathique, il est souriant, il est serviable.
Parlons de son mauvais côté, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Bon, le procès, vraiment, je ne le vois pas tellement, hein, mais c'est quelqu'un qui, même quand il est fâché, vous ne le saurez pas.
Vous avez peur de le vexer?
Non du tout, non du tout.
Et donc, vous n'avez rien à lui reprocher? Vous pensez qu'il est, c'est un homme bien?
Non, c'est un homme bien, bon, il n'y a pas un homme sain, hein, mais en tout cas, il a plus de qualité que de défauts.
Alors, ces défauts que vous connaissez là, lesquels? Que vous aimeriez qu'il
défauts...
change?
Le défaut, c'est qu'il peut vous promettre de vous rendre un service en souriant, même si c'est qu'il ne peut pas le rendre.
Il vous met dans l'espoir, sachant qu'il ne va pas le faire, c'est ça?
Ah oui, oui.
Et vous aimeriez qu'il change ce côté-là?
Bon, le caractère, c'est Dieu qui change le caractère. Hein.
La personne aussi peut changer son caractère.
Oui, si ça cause préjudice à autrui.
Et le fait de promettre sans réaliser, est-ce que ça ne cause pas préjudice à autrui?
Ça dépend, parce qu'il y a quelqu'un qui, de manière crue, peut dire « Non, je ne suis pas en mesure de vous rendre service », mais lui promet, même s'il est rassuré qu'il n'est pas en mesure de le rendre.
Alors, vous avez un message particulier à lui dire?
Pardon?
Vous avez un message particulier à lui dire?
Non, de l'encourager, c'est un politicien qui pense à sa communauté, raison pour laquelle il a été élu après l'échec de 2006, mais en 2011, il a été massivement élu dans son terroir où il est né. Et donc, je l'encourage à continuer à poser des actes positifs par rapport au développement de son village.
Quels actes positifs il a déjà posés?
En tout cas, lorsqu'il a eu des occasions de pouvoir recruter ses frères et amis, il n'a pas cessé de le faire. Il a posé des sources d'adduction d'eau à Iju. Iju, c'est une île sur le lac Kivu et arriver quand même à conduire de l'eau potable jusque sur ces collines-là de cette île, c'est quand même louable. Il est le premier, je crois. Il y a eu beaucoup de politiciens originaires d'Iju qui n'ont jamais eu à faire ça. Il l'a fait. C'est encouragé. Il a contribué à la construction de certaines écoles et c'est bon pour moi.
Et vous l'encouragez sur cette voie?
Ah oui, oui.
Alors, je vais vous demander de lui dédier une chanson. Laquelle vous préférez qu'on lui propose?
En tout cas, quand je l'ai connu, c'était à l'époque où aussi Madilou System avait chanté Chadra. Cette chanson, s'il l'écoutait, ça peut lui rafraîchir la mémoire.
Ah, parce qu'il y a des souvenirs derrière cette chanson?
Ah oui, oui.
Des bons?
Chadra de Madilou System.
Beaucoup de souvenirs que vous
je
connaissez
crois qu'il
aussi.
Va, il va en être content.
D'accord, merci beaucoup Maître Jean-Richard Bouino, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie Madame la journaliste.
Bonne journée chez vous.
Ok, pareillement, merci.
Merci. Alors honorable Balamagué, vous ne reculez jamais lorsque vous visez quelque chose. Vous devez l'obtenir coûte que coûte.
Non, juste que j'ambitionne quelque chose, j'ai réfléchi d'abord, avant d'extérioriser mes intentions. Je réfléchis et je mesure... mes moyens, l'efficacité et la méthode pour arriver à ça, effectivement. Mais je ne me bats jamais contre le mur aussi. Non. Il m'arrive de dire que, bon, là, je ne sais pas aller, je m'arrête.
Ça
mais
vous
quand,
fait
j'ai,
quoi
quand j'ai commencé, effectivement, je poursuis.
Et ça vous fait quoi d'écouter ce genre de témoignages sur vous?
Bon, ça me fait énormément plaisir. J'ai perdu par contact, j'ai son contact téléphonique. C'est un jeune confrère. Non, il n'est plus jeune parce qu'il a déjà une longue carrière. Mais c'est un jeune frère, effectivement. Je travaillais
avec... Qui vous apprécie beaucoup.
J'ai travaillé avec son grand frère et nous avons prêté serment le même jour. Et tout de suite, nous sommes devenus des grands amis. Nous avons même décidé, parce que les conditions étaient dures à l'époque, de cohabiter dans la même maison et de partager le loyer. C'est dans ces circonstances que le petit frère est venu en vacances. Il nous a trouvé deux jeunes avocats, ses grands frères. Et je suggérais aujourd'hui qu'il devienne aussi avocat, parce qu'à l'époque, nous essayons de lui répéter qu'il doit travailler dur à l'école, qu'il doit suivre notre exemple, parce qu'à l'époque, nous supposions que nous étions des exemples à l'époque. Et effectivement, il a dit beaucoup de choses qui sont tout à fait correctes. Correct, il a dit.
Vous promettez, chose... tout en sachant que vous n'allez pas le faire, mais avec un long sourire.
Madame, je voudrais d'abord vous dire que j'aime bien sourire, j'aime bien que l'atmosphère autour de moi soit agréable. Je voudrais pas voir des gens renfrogner leur visage autour de moi. J'aime bien qu'on se sente tous à l'aise, qu'on partage tout ça. J'ai un sentiment d'altruisme, c'est vrai. Alors, il arrive effectivement, parce que vous savez, notre Congo il est assez difficile pour certains. Il arrive que de jeunes gens ou des amis vous demandent quelque chose. J'ai envie tout de suite de réaliser ça. J'ai envie tout de suite de le faire. Et j'accepte. Mais des fois, je suis limité par les moyens et par les conditions. J'aurais bien voulu que Dieu m'ait donné assez de possibilités pour rendre tous ces services-là, effectivement. Lorsque vous venez, par exemple, d'un village comme le mien, Idui, où les parents ne savent pas payer les minervales, où il y a beaucoup de souffrances, tout le monde vous voit, vous avez évolué, tout le monde pense que à travers vous, il peut trouver un salut. Mais vous ne savez pas le faire pour tout le monde, pas tout de suite. Et j'ai de la peine, j'ai de la peine, effectivement. Mais tout ce que je peux faire, c'est de dire, gardons espoir et mettons-nous à chercher ensemble. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, je m'explique.
Alors, il vous a dédié la chanson Chandra de
Madilou.
C'est Madilou ou c'est l'autre?
Oui.
Joski.
Joski qui aime Kouta. Mais je suis heureux que Maître Bino se souvienne de tout cela. À l'époque, j'aimais Chandra parce que j'étais en train de découvrir celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Elle s'appelle Shadi. Là, on chantait Chandra. Et les paroles qui étaient chantées à l'époque rimaient avec l'amour que je lui portais tout de suite. Et j'ai voulu que cette chanson lui dise ce qui était dans mon cœur. Et donc voilà, et puis c'est vrai qu'on s'est trémoussé à l'époque, on était encore jeunes.
C'est-à-dire qu'il a eu raison de vous dédier cette chanson. Alors on va écouter juste un extrait.
Merci.
Et puis on va continuer notre émission, honorable Balamagui.
Merci. Oligo, mira, maya, pio, chevi, oligo, samote, mana.
Alors c'est beaucoup de souvenirs qui vous reviennent en tête.
Merci pour ce morceau, merci pour ce morceau.
J'imagine que si madame nous écoute en ce moment, elle doit être aussi contente, hein.
Ah non, elle sera très ravie. Mm-hmm. Elle sera très ravie.
Ah, c'est ça que vous lui chantiez chaque fois que vous étiez ensemble.
Ensemble, oui, même quand je connaissais de petite, je regardais ailleurs, elle me le reprochait, je lui chantais la chanson, j'essayais de chanter à l'époque, aussi mm-hmm. comme les musiciens. Aujourd'hui, peut-être avec le temps, je ne parviens plus à chanter bien.
Pourquoi?
Bon, je ne m'exerce plus à chanter quand même.
Vous allez essayer un peu?
Non, je vous en prie. Merci.
J'espère que cette chanson n'a pas fait seulement plaisir à l'honorable Balamag et que nous recevons dans ce studio, mais également à tous les fans des Hockey Jazz qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Honorable Balamagué, parlons de votre parcours politique. Vous avez commencé quand la politique?
J'ai commencé la politique en 1988.
88?
Non,
98.
Non, 98. Mais j'aime bien parler en français
belge.
En 98. Après le pouvoir de l'AFDEL, il se remarque qu'on était en carence de démocratisation du pays. Alors, le RCD décide...
Alors que tout le monde avait applaudi l'arrivée de l'AFDEL.
C'est exact. Mais tout de suite, les espoirs s'étaient estompés. Nous attendions la démocratie et n'arrivait pas. Il y avait quand même des dérives, il faut le dire. Alors, le RCD décide de prendre les armes pour restaurer, en tout cas, instaurer la démocratie dans le pays. L'objectif principal, c'était celui-là, en tout cas, à ma connaissance. Et je décide de m'engager avec les autres. Nous fondons le RCD.
Alors, vous êtes parmi les cofondateurs du RCD.
C'est exact. Pour ces motifs-là. Alors, nous poursuivons et puis la rébellion aboutit par les négociations San City et nous décidons en fait de réunifier le pays, tous les Congolais, et de former un gouvernement d'union nationale. Vous savez, la transition, une constitution est élaborée dans laquelle on instaure simplement pour l'avenir du pays du régime purement démocratique ici dessus.
Est-ce que c'était nécessaire de prendre les armes?
À l'époque, c'était la voie nécessaire ultime. Tous les contacts nécessaires pour amener le régime de l'époque à démocratiser le pays étaient vains.
Mais comment vous répondez à toutes ces personnes qui estiment que c'est le RCD qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Est?
Ils font une mauvaise lecture des objectifs. Quand vous regardez bien les objectifs primaires et principaux du RCD, c'était pas pérenniser la guerre, mais c'était instaurer la démocratie. Et une fois la démocratie instaurée, effectivement, après les accords de San City, le RCD s'est mué en parti politique qui n'a que seul objectif de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Alors, bon, du RCD sont sortis certaines brebis galeuses qui pensent que la guerre est perpétuelle et tout ça. Ça les regarde, ils sont. Je ne parle pas pour le compte du RCD parce que je n'en suis plus membre d'ailleurs.
Oui, justement, pourquoi vous avez quitté d'ailleurs ce parti politique?
J'ai quitté le parti politique parce qu'effectivement, nous avions remarqué qu'au sein du parti, il était devenu difficile de maîtriser certains aspects, notamment de la guerre, mais aussi nous devrions nous démarquer définitivement de la période passée de la guerre, parce que ce que nous poursuivions, c'était l'instauration de la démocratie. Une fois la démocratie instaurée, on ne pouvait pas comprendre que certains membres continuent à penser à la guerre et être instrumentalisés. Alors j'ai décidé effectivement de me démarquer, parce que pour moi, l'objectif était atteint. Nous sommes dans une démocratie balbutiante, mais une démocratie quand même, je dis, dès l'instant où nous sommes dans une démocratie, la place à la guerre, aux armes, n'est pas nécessaire. J'ai quitté, je formais avec d'autres camarades l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, l'ECT, dont je suis secrétaire général aujourd'hui.
Alors, de l'opposition, vous passez à la majorité. Pas des constances, il paraît, chez les politiciens congolais.
Non, il faut dire une chose. Hein. C'est vrai que le RCD est demeuré dans l'opposition, mais dans mon fort intérieur, il faut que je vous avoue quand même une chose. C'est que j'ai observé le régime Kabila. J'ai remarqué que on peut tout lui dénier, donc le président Kabila et son régime, mais on ne peut pas lui dénier l'initiative d'avoir commencé la reconstruction du pays, le développement du pays. Je ne dis pas que je suis satisfait du développement actuel du pays, mais au moins aujourd'hui, on sait dire que, pour Kinshasa par exemple, pour certaines provinces, déjà, les choses avancent un petit peu. Quand j'ai constaté qu'il y avait cette volonté, je me suis dit, bien, je peux apporter ma pierre dans cet engagement-là, dans cette détermination de reconstruire et développer le pays, de démocratiser davantage le pays. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est vrai qu'il y a à redire sur notre démocratie, elle est balbutiante, mais bien, nous sommes en train d'y aller petit à petit.
C'est comme ça que vous avez décidé d'aller dans la majorité.
C'est exact. Et je pense que j'ai des bonnes raisons de le faire. Tant que la volonté, la détermination de reconstruire le pays, de consolider la démocratie est là, je serai avec mes camarades de la majorité. Je préfère être au sein du groupe qui décide de reconstruire, de développer le pays, d'asseoir la démocratie, que de rester en train de faire des jérémiades, en train de critiquer. Critiquer, c'est très facile, vous savez. Mais il faut dire qu'entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une grande différence. C'est le plan de développement, c'est le plan de la démocratie. Nous sommes en train d'avancer. Alors il faut accompagner ceux qui avancent, ceux qui développent, ceux qui consolident la démocratie.
Je me rappelle qu'en 2003, vous avez été député national. C'était lors de la réunification 2003. Oui, oui. En 2005, pendant la transition, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. C'était pour le compte du RCD.
C'était pour le compte du RCD, oui.
OK. Et ministre du Portefeuille, c'était en quelle année, là?
Déjà, depuis fin 2006, depuis 2007. Mm-hmm. Ça veut dire, je suis ministre du Travail et à la fin, les élections de 2006 sont organisées. Bien, le ministre du portefeuille qui avait la gestion du portefeuille à l'époque, il est élu député national. Et moi, je suis au travail. Le président de la République, après consultation avec le président du RCD de l'époque, décide de m'envoyer gérer le ministère du portefeuille pour quelques mois.
Avec le président du RCD, vous dites de l'époque, c'est le même qui est à la tête du RCD.
Oui, c'est exact. Voilà. Alors, le président de la République, après consultation avec le président du RCD, décide de m'envoyer au portefeuille pour gérer le portefeuille durant 4 mois. Durant que j'étais au portefeuille, je suis élu sénateur au Sud Kivu. Et voilà, après, le gouvernement...
Après votre échec à la députation nationale.
Alors, la transition est terminée. Il est formé un gouvernement issu de la majorité à l'époque et je ne suis plus ministre, donc c'était normal. Je rentre siéger au Sénat comme sénateur.
Pourquoi vous n'êtes pas resté au Sénat? Vous avez préféré l'Assemblée nationale?
Bien, je pense que le mandat de au Sénat, on est élu au deuxième degré.
Une question de mesurer votre popularité.
Non, j'aime bien mon terroir qu'il fallait rentrer. C'est vrai que j'étais heureux d'être élu sénateur au Sud Kivu parce que bon, j'étais parmi les meilleurs élus de l'époque comme sénateur. Le Sénat, c'est une institution prestigieuse, c'est vrai. On travaille très très bien avec les autres, mais on est élu au deuxième degré. J'avais envie de me mesurer encore, de poser une fois la question à mes électeurs, à mon peuple dont je suis issu. Est-ce que franchement ils ont fait le bon choix en 2006? J'y ai travaillé. Alors, lorsque arrivent les échéances 2011, je fais d'abord un petit sondage. Je leur pose la question de manière indirecte, par ce sondage-là, s'il faut que je me présente. Ils me disent, vous devez vous présenter. Mais je leur ai dit, écoutez, j'ai un mandat de sénateur. Êtes-vous sérieux? Ils m'ont dit, oui, nous avons commis une erreur. Venez, présentez-vous. Alors, je suis venu, je me suis présenté, effectivement. Et ils ont corrigé.
Vous avez été élu massivement.
Massivement, oui. J'ai eu 37 000 voix.
Radio Capi, grand témoin.
Voilà, parlons actualité. L'actualité aujourd'hui, ce sont les concertations. L'actualité, c'est la guerre dans l'Est. Commençons par quoi? Par la guerre ou par les concertations?
Bon, on peut commencer par la guerre ou par les concertations, mais bon, c'est lié. En fait, les deux sujets d'actualité se recoupent parce que dans les concertations, il y a aussi, on va traiter de la guerre.
Voilà, comment mettre fin à cette guerre qui a trop duré dans le Nord Kivu, disons dans l'Est de la RDC?
Les problèmes,
alors qu'on pensait trouver une solution avec l'accord cadre d'Addis Abeba, Kampala, mais malgré tout ça, la guerre continue.
Bien, je pense qu'il faut qu'on garde espoir. Il y a des avancées significatives, effectivement. Il y a l'accord cadre où tout est défini, et si donc on met ça en application, nous allons à la fin connaître la fin de la guerre. Je dis, mais nous ne pouvons pas compter avec la bonne foi des autres partenaires. Je veux dire les pays voisins, le Rwanda principalement. Parce que bon, dans cette situation de guerre, le Rwanda est de très mauvaise foi. Donc, je pense qu'il y a des autorités militaires de ce côté-là qui, sans la guerre, ne pensent à autre chose, ne savent pas vivre. Donc,
mais on accuse aussi certaines personnalités congolaises de l'Est, Nord et Sud qui vous impliquent aussi dans cette guerre.
Bien, il faut dire que sans nos compatriotes, il faut avouer des choses, sans la complicité de nos compatriotes, ce qui nous agresse n'aurait pas de porte d'entrée. Alors, ce que je voudrais dire au cours de cette émission, c'est de dire à ces compatriotes-là qui se font manipuler de cette manière-là, il faut qu'ils sachent que le temps de reconstruire notre pays est arrivé, il faut qu'ils cessent. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, c'est ici au Congo. Il y a la place pour tout le monde aujourd'hui. Il faut qu'ils cessent. Je sais que dans le nord et dans le sud Kivu, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les M23. Mais je fais un appel pathétique. Et moi, j'ai de l'expérience à partager avec eux en ce qui concerne la situation de guerre. Vous savez, nous connaissons la guerre depuis 1994. Je pense qu'avec l'application de l'accord cadre, nous allons cheminer. La vérité est en train de se dévoiler aujourd'hui. Parce que ceux qui instrumentalisent nos amis et nos frères, ils avaient d'autres explications à donner à la communauté internationale pour avoir le parapluie de la communauté internationale de certaines grandes puissances. Aujourd'hui, les mensonges sont apparus au grand jour, voyez-vous. Et donc, j'espère qu'avec cette dynamique, nous allons connaître dans les jours à venir, et c'est ça mon vœu le plus ardent, la paix pour que le nord et le sud Kivu, la partie est de notre pays, le Congo tout entier, se mette face à ces chantiers qui sont de reconstruction, de démocratisation.
Alors, toutes ces questions seront justement discutées dans les concertations nationales. La date est connue. Le 4 septembre, les travaux débutent.
Oui.
Vous y croyez-vous, en ces concertations ?
Je crois fermement, parce qu'il faut qu'on se retrouve, effectivement. Il faut qu'on parle entre nous, les Congolais. Il faut qu'on parle. Il faut que nous resserrions le rang. Il faut que notre cohésion s'affermisse. Il faut que nous parlions de la paix. Comment déboucher sur la paix et mettre fin à la guerre ? C'est des priorités. Et tout Congolais est pris de paix, n'est-ce pas, et qui aime son pays, devrait en fait encourager les concertations.
Mais comment retrouver la paix lorsque ces groupes armés ne sont pas associés, ne sont pas invités à ces travaux?
Bon, il n'est pas dit nécessairement que lorsqu'ils sont conviés directement, ils pourront. Je sais que le processus de Kampala, par exemple, il n'est pas arrêté. Nous pouvons simplement remarquer qu'il y a des caprices du M23 et de leurs parrains. Mais je sais qu'à un moment donné, ces concertations, ces dialogues de Kampala pourra reprendre d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne nous empêche pas, nous les Congolais, de venir et de discuter pour que tous nous prenions l'engagement de dire non à la guerre et de faire face à l'agression dont nous sommes victimes. Je pense que inviter aussi directement les concernés, hein, c'est gratifier les gens. On ne peut pas continuer à gratifier les gens qui font la guerre, parce que si vous invitez les gens de l'M23, vous savez, les maïmaïs sont à combien? Les concertations en question, on pourrait avoir 5 000. Et généralement, quand vous invitez des seigneurs de guerre, même ceux qui ne signifient rien sur le terrain, ils se mettent à recruter d'autres maïmaï pour se donner de l'importance. C'est là le piège. Mais je pense que le processus de Kampala se poursuit et il y a une détermination de la République, c'est que les forces négatives, notamment les maïmaï, sont classées parmi les forces négatives. Ils ont le choix d'abandonner les armes ou alors de se faire de subir l'affront de forces armées de la République démocratique du Congo qui, soit dit en passant, sont en train de démontrer leur bravoure aujourd'hui. Ça vous dit donc que demain ou après-demain, si les efforts se poursuivent de la réforme de notre système de sécurité, de notre armée sera en mesure de pouvoir dissuader les autres nations.
Alors, on sait qu'il y a des partis politiques, des grands partis politiques quand même, de l'opposition, qui ne reconnaissent pas ces concertations nationales. Est-ce que ça ne pourrait pas poser un problème à la fin, ou ne pas rendre crédibles les résultats qui seront issus de ces concertations?
Non, je pense qu'il faut avancer. Il y a une grande partie de l'opposition qui prendra part aux concertations. Il y a eu des groupes de contact dans quelques groupes de contact qui ont fait des travaux préparatoires. Il y a des membres de, en tout cas, la majorité de l'opposition. Alors, il y a deux groupes qui, me semble-t-il, ne viendront pas. Parce que les uns estiment qu'il y a crise institutionnelle et qu'il fallait commencer par là. Je dis non, il n'y a pas crise institutionnelle. On peut beaucoup dire de choses sur les élections, mais nous avons un gouvernement qui est issu de la majorité présidentielle. Nous avons un parlement, je veux dire l'Assemblée nationale. Et donc, on peut critiquer les élections, mais il n'y a aucune élection de par le monde qui a été exempte de critiques. Il n'y a pas toujours une élection parfaite. L'essentiel, c'est de s'engager sur la voie démocratique, n'est-ce pas? et pas faire. C'est un processus, la démocratie, en fait. On ne se trompe pas. Alors, ceux qui ne viendront pas, bien, l'objectif essentiel pour eux, c'est de dire, il y a crise de légitimité, ils voudraient être reconnus au dialogue comme les détenteurs du pouvoir ou de l'impérium, comme on aime bien le dire, pour qu'on sache que bon, c'est eux qui ont gagné les élections. Mais on n'en est pas là. Si c'est ça leur objectif, alors c'est pas le lieu, c'est pas la concertation pour consolider.
Mais c'est aussi un problème sérieux, ce problème de légitimité. Ça non, divise aussi les Congolais.
Il n'y a pas de problème de légitimité, madame. Il y a un président qui a été proclamé élu. La Cour suprême a validé les élections. Il y a une Assemblée nationale qui a 500 élus, parmi lesquels vous avez les membres de l'opposition et les membres de la majorité qui siègent.
Alors, on a suivi le président du Sénat parlant de ces concertations qui a lâché, hein, comme ça, en disant il y aura un gouvernement d'union nationale qui sera issu de ces concertations. Est-ce que c'est l'objectif poursuivi?
Pour ma part et pour mon parti, ce n'est pas l'objectif. C'est pas ça ce que nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, c'est effectivement ce que nous disions, nous, les Congolais, tous ensemble, non à la guerre. Et comment y parvenir, comment mettre fin à la guerre. L'objectif deuxième, c'est consolider notre cohésion nationale. L'objectif troisième, c'est de voir comment devons-nous. Nous devons consolider notre démocratie. Peu importe celui qui gouverne aujourd'hui. Donc, si nous allons dans un gouvernement d'union nationale, nous sommes dans quel régime? Nous mettons fin, ou en tout cas, nous violons la Constitution.
Voilà, Monsieur Balamagui, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous pendant près de 45 minutes. Nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent à Idji, chez vous.
Bien, je voudrais bien faire un message aux auditeurs d'Idji, mais aussi de l'ensemble de la République.
Oui, allez-y.
Je voudrais d'abord les saluer et dire qu'il y a effectivement un tel espoir. Les choses sont dures, mais il faut garder espoir et se mettre au travail. C'est notre responsabilité, nous les dirigeants, de mettre tout le monde au travail. Je pense qu'avec l'engagement de mon parti, les CT, nous ferons le nécessaire pour que nous créions beaucoup d'emplois pour tous les Congolais, que les Congolais soient payés décemment. Je voudrais dire à mes frères d'Idji que, bien, bon, j'étais avec eux il y a deux semaines. Je leur ai dit que je en vacances parlementaires.
Vous avez échangé avec votre base.
J'ai échangé avec eux. J'ai encore en mémoire les recommandations qu'ils m'ont faites. Et au courant de cette session budgétaire, je pourrai faire parvenir leur desiderata, nos desiderata, parce que nous sommes un avec ce peuple-là auprès de gouvernants.
Merci beaucoup. Votre message est passé. On a salimé à Toto et à Idji.
Coco Buenene.
Ça veut dire?
Ça veut dire merci beaucoup.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que j'ai recevé Boniface Balamagui Kolo. Il est député national, il est avocat d'abord et puis actuellement il est député national. Il était ancien sénateur, ancien ministre du Travail, du portefeuille. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique au micro qu'elle écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.